Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h44, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Yannick Jadot.
Bonjour Yannick Jadot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes donc en effet un des deux finalistes à la primaire Europe Écologie Les Verts après le coup de théâtre de l'élimination de Cécile Duflot. C'est vrai que le fantôme de Nicolas Hulot a un peu plané sur cette primaire. Vous êtes récemment comparé à lui. Pourquoi ? Quel est le rapport ? Alors, à part le fait que vous connaissiez bien et que vous avez une notoriété infiniment plus faible que lui, naturellement.
C'est vrai, mais la relation que je fais, c'est que Nicolas Hulot a prouvé, quand il était candidat potentiel, qu'il y avait un espace politique très large pour l'écologie, plus de 10%. C'était les tests qui étaient faits sur lui à ce moment-là. Et ça montrait que sincérité, conviction, bienveillance, prise de hauteur par rapport aux enjeux, parler à l'intelligence des Françaises et des Français et sa notoriété faisait qu'un discours écologique était parfaitement accueilli dans l'opinion publique et il trace une voie et c'est cette voie que je veux emprunter. Personne ne remplacera Nicolas Hulot. Mais je crois que si l'écologie redevient aimable, si elle est crédible, si elle est responsable, si elle n'est ni culpabilisante ni punitive, parce qu'elle offre un avenir bienveillant et qu'elle répond aux problèmes du quotidien, elle peut trouver une place large dans le paysage politique.
On va voir dans quelques instants ce qu'il y a derrière ce discours que vous venez de caractériser. Dans la famille écolo, il y a François de Rugy, qui est candidat à la primaire de la gauche. Il y a Benamia, Jean-Luc Benamia, qui est aussi candidat. Il y a vous, si vous êtes élu le 7 novembre, c'est le deuxième tour de cette primaire. Ça ne vous déprime pas de voir tous ces prétendants sous la même bannière verte ?
Déjà, on ne fait plus partie de la même formation politique. Ça vous a
vous
pas échappé que...
Vous revendiquez tous de l'écologie.
D'accord.
De l'environnement.
Enfin, ça vous a pas échappé que François de Rugy a quitté Europe Écologie Les Verts, que Benamia s'a quitté depuis très longtemps Les Verts pour rejoindre le Modem à l'époque. Donc voilà, ce qui est important, c'est que le discours écolo soit porté partout. Maintenant, il n'y a qu'une force de l'écologie politique qui pèse, qui a un discours de cohérence et qui a des élus beaucoup sur le terrain. Vous savez, on parle souvent de l'image dégradée d'Europe Écologie Les Verts.
C'est pas une image, c'est une réalité.
Oui, la cote de confiance, dans l'image de l'écologie politique a baissé. Mais moi, je pense toujours aux milliers de militants du terrain, les centaines d'élus qui, tous les jours, améliorent notre santé, protègent notre agriculture, donnent des transports collectifs pour les personnes pour qu'elles puissent se déplacer. Donc, il y a un énorme travail qui est fait tous les jours par plein de militants et d'élus écologistes. Et c'est vrai que cette image à l'échelle nationale,
elle est dégradée.
Nous fait beaucoup de mal. C'est pour ça qu'il faut la changer.
Est-ce que c'est François Hollande qui a fracturé les écologistes ?
Non. Il a incontestablement cherché, comme tout président dans l'histoire de la Ve République, à fracturer des forces politiques concurrentes, potentiellement. Mais c'est d'abord aux écologistes d'assumer la responsabilité de l'État dans lequel nous sommes. Mais, vous savez, j'ai été de la Fondation d'Europe Écologie en 2009. Ouais. Donc, je sais que l'écologie peut gagner. Je sais que l'écologie peut rendre curieuses les Françaises, rendre curieux les Français. Je sais qu'elle peut être attractive et qu'elle peut créer l'adhésion. C'est ça que je veux faire dans cette campagne présidentielle.
Manuel Valls, samedi dernier, a appelé au rassemblement de toute la gauche pour éviter la pulvérisation face au risque FN. Ça relève pas un peu d'un minimum de bon sens, cet appel au rassemblement ?
Ça relève potentiellement d'un minimum de bon sens, mais c'est quand même assez étonnant venant de Manuel Valls. Vous savez, c'est comme quand on regarde un match de foot, que vous avez un défenseur qui fait un énorme tacle sur l'attaquant et qui lève les mains en disant « j'ai rien fait ». Manuel Valls a réussi l'exploit de perdre la droite du Parti Socialiste, la gauche du Parti Socialiste, les écologistes. Donc,
qui se pose aujourd'hui en rassembleur,
c'est quand même assez étonnant.
Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant, à 6-7 mois d'une présidentielle où le FN s'annonce comme une puissance électorale extrêmement
c'est un vrai sujet, madame.
Redoutable peut-être,
vous
en
avez
tout cas
raison.
Prévisible.
C'est un vrai sujet, mais regardez les règlements de compte au sein du Parti Socialiste, autour du hollandisme, tous les ministres qui sont sur leur chemin de repentance pour retrouver une virginité politique parce qu'ils ont servi François Hollande. Franchement, je crois que ça n'intéresse absolument pas les Français, cette histoire-là.
C'est-à-dire
les règlements de compte.
Ce qui se passe là entre François Hollande et Manuel Valls autour d'une possible candidature à la présidentielle de l'un et l'autre, ça vous
inspire quoi ? Mais c'est leur histoire. C'est leur histoire. Pour moi, c'est le passé. Enfin, moi, je suis toujours surpris quand j'entends même François Hollande qui gouverne aujourd'hui, qui préside aujourd'hui notre pays. Quand je l'entends, j'ai vraiment le sentiment qu'on regarde un film dans le passé, que ça n'imprime plus
sur l'opinion publique.
C'est perdu.
perdu pour lui.
Mais ça n'implique plus
déjà.
Sur l'action déjà.
C'est perdu pour lui.
Ah mais moi c'est son histoire, c'est son histoire.
C'est
moi
l'histoire
mon
des
histoire.
Aussi, Yannick
oui,
Jadot.
Bien
c'est
sûr. France...
C'est
mais...
perdu pour François
ah, mais
Hollande.
Je crois
déjà.
Qu'aujourd'hui ça n'imprime plus, y compris sur la réalité. Regardez ce qui était dit par M. Langlais il y a quelques minutes. Je veux dire, François Hollande, dans son quinquennat, a totalement tourné le dos à l'écologie. Pourquoi voulez-vous que, de nouveau, on soit dans cette perspective de travailler avec Manuel Valls, qui n'a qu'un rêve tous les matins quand il se rase, c'est d'envoyer 3 à 4 000 gendarmes mobiles sur Notre-Dame-des-Landes. C'est pas notre affaire, nous. Ça, c'est l'histoire des socialistes. Ils sont dans leur règlement de compte, ils sont dans leur truc. Moi, je veux proposer de
Manuel
l'espoir.
Manuel Valls, c'est impossible de travailler avec lui.
Mais moi, je personnalise pas.
D'accord.
Ce gouvernement, on ne peut plus travailler aujourd'hui avec lui. Il essore totalement l'écologie. Et chaque matin, c'est plutôt une mesure anti-écolo qu'une mesure pour l'écologie.
Notre-Dame-des-Landes, vous l'évoquiez à l'instant. Est-ce que la position de Ségolène Royal affaiblit l'État, comme le dit précisément le Premier ministre? On rappelle que Ségolène Royal, maintenant, elle dit son opposition au projet, après
Mais
que le
Ségolène
référendum
Royal,
a dit oui.
Ségolène Royal, elle est dans le bon sens. Vous avez un aéroport qui s'appelle Nantes-Atlantique. Vous avez Ségolène Royal qui a engagé des experts qui disent il faut travailler sur cet aéroport qui a été aéroport européen en 2013. Donc c'est un aéroport en bon état. Faut pas détruire des terres agricoles. Faut pas détruire de la biodiversité. C'est mauvais pour le climat. Mais c'est pas simplement Ségolène Royal l'incohérence. C'est un François Hollande qui, quand il vient chez vous, dit il faut faire Notre-Dame-des-Landes. Et quand il parle en confidence à des journalistes,
dans
dit,
le livre
ça ne se fera jamais.
Mais vous pensez que Manuel Valls va faire évacuer la ZAD?
Mais j'espère qu'il n'aura pas la folie de faire ça.
Non, est-ce que enfin, vous pensez
la
qu'il est capable
est pas
de le faire avant la fin de l'année, comme il l'a dit? Ce sera un
cow-boy. Je ne sais pas. Je veux dire, je ne fais pas de psychanalyse sur l'état d'esprit de Manuel Valls. Mais franchement, l'enjeu de la sécurité pour les Françaises et les Français aujourd'hui, ce n'est pas de créer un point de fixation à Notre-Dame-des-Landes. Il y a hier, on commémorait le deuxième anniversaire de la mort de Rémi Fraisse. Je pense qu'on a autre chose à faire que d'envoyer des gardes mobiles plus utiles ailleurs et de créer les conditions de violence et potentiellement d'un militant qui décéderait sur place.
Alors, pour cerner votre profil, en tout cas programmatique, pour les auditeurs qui ne le connaissent pas encore, la première mesure écolo pour vous, ce serait laquelle?
Une France 100% renouvelable, parce que...
Ah non, mais c'est... Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on met le paquet sur la rénovation de nos logements. Pour mieux vivre dedans, pour économiser les consommations d'énergie. Rénovation du logement, c'est des centaines de milliers d'emplois, d'artisans, d'ouvriers, d'ingénieurs, d'architectes du bâtiment sur tous nos territoires. Les énergies renouvelables, c'est des milliers de PME sur tous nos territoires. On a plein de territoires aujourd'hui.
Mais en matière de carburant, vous faites quoi, par exemple? Vous interdisez en matière de carburant pour les automobilistes, vous interdisez le diesel, vous?
Ah, il faut sortir du diesel. Bien sûr qu'il faut
progressivement,
sortir du diesel.
Pas évidemment sur combien d'années?
Comme on va pas. Écoutez, on faut regarder avec les industriels le temps de la conversion industrielle. Sur 5 à 10 ans, on peut totalement sortir du diesel dans notre pays. Est-ce que, franchement, regardez, il y a quelques semaines, les journaux titraient, au moment du mondial de l'automobile, la France championne du monde des voitures sales. Est-ce que vous pensez qu'on va garder des emplois industriels, des groupes automobiles, quand on est champion de la voiture sale? Il faut aller vers la voiture intelligente, la voiture qu'on partage, la voiture peu polluante. C'est ça le
vous
sujet de l'industrie.
Vous approuvez la politique voiture, ou plutôt anti-voiture, comme le disent certains, d'Anne Hidalgo à Paris?
Mais ce n'est pas une politique anti-voiture, c'est une politique pour la santé. Il faut mettre les objectifs là où ils sont. Vous savez que vous et moi, on perd 20 mois d'espérance de vie en vivant dans une ville comme Paris. Est-ce que c'est ça l'objectif qu'on se fixe? Est-ce qu'on n'a pas envie de gagner des mois d'espérance de vie? Si en plus, est-ce que quelqu'un aurait envie de revenir sur les voies piétons, sur les bus en site propre, sur le Paris-Plage?
Non, c'est clair,
tout le monde pense que c'est le progrès. Tout le monde pense que c'est le progrès. Allons-y en faisant une offre toujours plus forte de transport collectif pour les Franciliens et les Franciliennes.
Vous dites que vous êtes contre l'écologie punitive, mais par exemple, vous étiez contre l'écotaxe et les portiques comme Ségolène Royal?
Mais qui est puni avec la pollution de l'air?
Ah ben, par exemple, les entreprises de transport.
Non, la pollution de l'air, c'est vous et moi qui sommes punis.
Non, mais
qui est puni avec...
Vous comprenez ce que je veux dire?
Non, mais l'écotaxe...
Quand elle dit
non,
ça, Ségolène Royal, elle pense à l'économie, elle pense aux emplois.
Non, elle pense pas à l'économie,
elle
aux emplois. Je suis désolé. L'écotaxe, moi j'ai fait le Grenelle de l'environnement, avec Hulot, avec Bougrain-Dubourg, avec tout le monde. On avait décidé en 2007... à la fois de renforcer énormément le fret ferroviaire de marchandises, le transport de marchandises par fret. On devait passer de 14 à 25%. On est passé en dessous de 10%. Pendant ce temps-là, l'Allemagne est passée à plus de 25%. Ça veut dire qu'il y aurait plein de boulot à Alstom. La taxe poids lourd, ça devait, on a payé au moment du Grenelle de l'environnement pour les poids lourds avant qu'il y ait la taxe poids lourd. Donc, ils ont bénéficié des mesures de compensation à ce moment-là. Et la taxe poids lourd, c'est 1 milliard de recettes pour financer nos transports du quotidien. C'est ça que veulent les Français.
Alors, encore une question.
Des transports du quotidien.
Vous êtes pour le revenu universel ? Très vite.
Bien sûr.
Très vite.
Bien sûr.
Et quel revenu pour... Parce que c'est très à la mode et on ne sait pas de quoi on parle.
Il faut qu'on ait un revenu qui permette aux femmes et aux hommes de ce pays qui contribuent à notre bien-être collectif et qui aujourd'hui ne sont pas rémunérés. Il faut un revenu universel.
Partir de quel âge ?
On va faire.
C'est quoi votre mesure ?
La réflexion qu'on doit avoir, c'est qu'on ait un revenu universel, y compris dès la naissance. Dès la naissance, mais vous mettrez en place en même temps une grande réforme de la fiscalité. La question, ce n'est pas que ça soit un coût, c'est que chacune et chacun vive bien dans notre pays.
Il y a quand même une question sur le financement.
Mais bien sûr qu'il y a une question sur le financement. Mais qu'on
350 milliards, disent certains candidats à la présidentielle.
Qu'on ait un débat dans notre pays. Commençons par le débat. Qu'on ait un débat
d'accord,
sur notre pays, sur notre relation au travail, sur ce que va être l'évolution du marché du travail. Quand on va remplacer des femmes et des hommes par des robots pour des tâches qui sont difficiles. C'est une bonne idée, mais ça détruit des emplois. Comment on va faire pour que chacune et chacun vive correctement dans notre société ?
Alors, victoire ce matin à Bruxelles, Yannick Jadot.
Sur le CETA ?
Le Premier ministre canadien, on l'a appris à 7h, annule sa visite à Bruxelles parce qu'il n'y aura pas aujourd'hui de signature d'accord de libre-échange entre le Canada et Paris. Victoire, dit ce matin Yannick Jadot.
Pour vos auditrices et vos auditeurs, j'ai le sourire. Ouais. Évidemment, vous savez, je coordonne depuis 3 ans au niveau européen la bataille contre le TAFTA, le traité transatlantique avec les États-Unis, et contre le CETA. Ça doit être confirmé dans les heures qui viennent par la Belgique, mais c'est une très belle victoire de la démocratie.
La Wallonie, le Parlement francophone de Wallonie en Belgique qui bloque le fonctionnement de l'Europe.
Mais
27
non,
pays sont pour et c'est la Wallonie qui bloque.
Vous savez que c'est
secondes.
Un exemple. C'est tous les parlements nationaux auraient dû se saisir de cet accord avec le Canada. La Wallonie l'a fait. La Wallonie a considéré que c'était un danger pour l'environnement. C'était un danger pour leur économie. C'était un danger pour leur démocratie. Je regrette que ce gouvernement français, avec la majorité socialiste, ait bloqué le même travail à l'Assemblée nationale. Emparons-nous de ces sujets de la mondialisation et de notre souveraineté démocratique.
C'était le dernier mot, Yannick Jadot, ce matin sur RTL.
Ce gouvernement essore l'écologie, nous a dit Yannick Jadot. Quand j'écoute François Hollande, j'ai l'impression d'un film ancien qui n'imprime plus. Et si l'écologie redevient aimable, elle peut retrouver un espace. Merci à tous les deux. Votre sourire, on peut le retrouver aussi sur le site rtl.fr. Et nous débattrons tout à l'heure du revenu universel à 8h20 sur l'antenne d'RTL.